L'objectif poursuivi dans cette seconde capsule est d'identifier les apports que l'approche programme ou approche curriculaire intégrée peut introduire dans les processus d'enseignement-apprentissage et, en contrepartie, faire part de limites potentielles dont il faudrait être conscient pour éviter des dérives éducatives. Ainsi, je mettrai en relief les implications positives que porte cette notion. Puis, je voudrais mettre en garde contre une certaine dérive que la notion peut induire. Il est possible de faire ressortir plusieurs conséquences des définitions citées dans la capsule précédente, qui sont généralement considérées comme positives. Premièrement, l'approche programme s'oppose à l'approche cours et, par là, à la notion de cursus qui repose sur un ensemble d'activités juxtaposées, cumulatives, sans nécessairement avoir des relations entre elles. Pour le gouvernement du Québec, par exemple, une approche programme permet de remédier à la fragmentation de la formation et facilite l'intégration de toutes les activités. Elle exige en conséquence une interrelation forte entre les différents contenus d'enseignement ou de formation afin d'assurer une grande cohérence interne. Sur ce plan, l'approche programme est synonyme de curriculum, car elle exige une interrelation étroite et progressive entre les contenus enseignés. Mais il y a beaucoup plus. Deuxièmement, l'approche programme est fondée sur les profils de sortie, les outputs, des objectifs de formation, les standards, et elle cible les compétences. Approche programme et approche par compétences sont inséparables. Elle est conçue et structurée en ayant comme visée les attentes prévues sur le plan des apprentissages. Troisièmement, l'approche programme valorise le recours à une démarche constructiviste. Celle-ci est entre autres convoquée au nom de la résolution de problèmes, du développement de la pensée critique, du développement de compétences communicationnelles et comportementales. Quatrièmement, étant une approche globale et intégrée, l'approche programme requiert un décloisonnement des disciplines de manière à favoriser la mise en œuvre de l'approche par compétences dans les processus d'enseignement-apprentissage. Et cette relation requiert le recours à une perspective interdisciplinaire où les savoirs disciplinaires sont sélectionnés et croisés de manière complémentaire en fonction du développement du savoir agir attendu. Cinquièmement, l'approche programme est basée sur la concertation, la coopération et la mise en réseau des différents acteurs intervenants. Elle impose donc une interaction forte entre les enseignants, les responsables, les parents, les autres intervenants, de manière à constituer une équipe soudée, centrée sur les mêmes objectifs, ce que les auteurs anglo-saxons appellent une communauté d'apprentissage. Sixièmement, l'approche programme exige une harmonisation des procédures de pilotage, une planification préalable tant par les décideurs que par les responsables immédiats et par les enseignants et formateurs. Mais aussi, sinon surtout, elle exige des mesures de régulation et de contrôle pour assurer la mise en œuvre adéquate des finalités poursuivies. Il s'agit d'une gestion axée sur les résultats qui est introduite avec comme objectif officiel la lutte contre l'échec et une amélioration des pratiques organisationnelles et enseignantes. La gestion axée sur les résultats entend fournir un cadre cohérent de planification et de gestion stratégique. ce qu'on appelle un référentiel de compétences, qui a pour objectif d'améliorer l'apprentissage et la responsabilité. Ce modèle de gestion requiert également des indicateurs de performance, des critères de mesure et l'efficacité des pratiques de formation et de l'atteinte des résultats. Bref, une reddition des comptes dans le cadre d'une éducation basée sur la preuve. Ces différents apports de l'approche programme ne sont pas sans entraîner possiblement des effets pervers, des dérives sur lesquelles je voudrais attirer maintenant votre attention. Premièrement, de quoi parle-t-on quand on entend décloisonner? D'une approche interdisciplinaire qui maintient le respect et la cohérence des différentes disciplines? Le décloisonnement souhaité se référerait-il au contraire à un regroupement des disciplines dans de grands domaines dont la cohérence est fortement discutable, comme c'est le cas au Québec, à la réduction des contenus disciplinaires aux seules dimensions instrumentales qui seraient retenues parce que jugées économiquement utiles, ou encore à un recours à la transdisciplinarité, notion peu définie et généralement vue comme un dépassement des disciplines, ce qui renvoie pour le moins à quelque chose de bien mystérieux. Pire encore, à la suppression des disciplines, pour leur substituer quoi? Des comportements? Des savoirs de sens commun? Autre chose? Deuxièmement, de quel constructivisme parle-t-on? De la théorie historico-culturelle de Vygotsky, qui met en évidence la nécessité de rapports intersubjectifs s'actualisant dans une zone proximale de développement médiatisée par l'enseignant et visant l'acquisition des savoirs académiques? Ou, à l'opposé, de la croyance naïve que chaque élève, seul ou en équipe, peut de lui-même et par lui-même produire du savoir systématisé, abstrait et généralisable? Ou encore, que l'essentiel des apprentissages se trouve dans la production de connaissances et de compétences tirées de l'expérience et immédiatement applicables dans la vie de tous les jours. Troisièmement, réduire les compétences à une émanation individuelle ou collective ou au seul cumul des expériences individuelles actuelles et passées relève et soulève la question du sens à leur octroyer. Le danger sur le plan éducatif est que les élèves ne perçoivent que leur mise en œuvre applicationniste, techniciste, à partir des tâches prescrites, au lieu de les voir comme des possibilités d'activation de processus cognitifs aptes à développer une appréhension abstraite et généralisable de la réalité naturelle, humaine et sociale. Quatrièmement, et il s'agit ici de l'aspect le plus sérieux peut-être, la reddition de comptes, en anglais accountability, introduit un modèle prescriptif d'intervention en éducation qui réduit substantiellement l'autonomie, la marge de manœuvre des enseignants par l'imposition d'un fort système de contrôle. Selon Durubella et Murray, un système complet d'accountability comprend quatre composantes. Fixer les objectifs, les standards, évaluer leur atteinte, l'assessment, publier les résultats, public reporting, et éventuellement leur associer des conséquences, incentives, c'est-à-dire un dispositif de sanctions positives et négatives qui s'inscrit dans la logique de la rationalisation technique, loin des préoccupations humaines et sociales. Ces effets potentiellement négatifs se retrouvent explicitement dans le discours néolibéral de l'OCDE, qui en fait la promotion et qui en défend leur mise en pratique par les gouvernements de la planète, au nom de la concurrence, de la libre circulation des biens sur les marchés, et de la formation d'un capital humain, c'est-à-dire d'êtres humains, utilitaristes et individualistes, en compétition les uns avec les autres. Que conclure après avoir défini et dégagé des aspects jugés positifs et négatifs en relation avec l'approche programme? Celle-ci me paraît assurément fort intéressante et pertinente quand il s'agit de concevoir des curricula plus soucieux des processus d'enseignement-apprentissage et des dimensions humaines et sociales. Par contre, le danger est grand, car le modèle éducatif néolibéral est de nos jours dominant, d'y recourir en s'adossant à la logique néolibérale. Dans cette perspective néolibérale, d'une part, les savoirs sont réduits à un stock d'informations. D'autre part, les savoirs n'ont de pertinence que dans la mesure où ils s'inscrivent dans une économie de la connaissance, où leur utilité est marchandisable, en adéquation avec les attentes des marchés, et où ils sont porteurs d'une valeur marchande et, par là, d'un potentiel de rentabilité économique, individuelle et systémique, par le poids innovateur dont ils seraient chargés. La logique qui prévaut, si elle dit promouvoir des apprentissages cognitifs, les situe bien davantage sur le plan instrumental, celui qui permet de les ancrer fonctionnellement dans les expériences de la vie quotidienne et de répondre de manière satisfaisante, c'est-à-dire minimale, aux attentes des organisations économiques. Les dangers de dérive de la vision instrumentale dominante de nos jours résident dans la réduction des apprentissages cognitifs aux seules dimensions utilitaires de la vie quotidienne et nécessaires aux activités économiques, par là, à l'évacuation dans les curricula de la dimension culturelle et de la conceptualisation fondée sur les savoirs disciplinaires. Conséquemment, un curriculum construit sur la base de telles conceptions issues du quotidien et de la nécessité immédiate ne peut que limiter les capacités des élèves à penser, à comprendre le monde et à se donner les moyens d'agir. Baser l'approche programme sur l'expérience du quotidien, sur le recours aux compétences et sur la résolution de problèmes qui règnent en maître absolu, faisant complètement fi des processus ou démarches de conceptualisation surtout, expérimentales et autres, est la meilleure garantie d'un maintien des élèves dans un état d'infériorité intellectuelle. En effet, ces concepts du quotidien ne permettent pas de passer sur le plan de l'abstraction et de la généralisation, du fait qu'ils sont précisément ancrés dans la factualité des événements, dans l'immédiateté des expériences de vie. Il leur manque la contextualisation sociale qui pourrait conduire à une problématisation cognitive, cette fois disciplinairement contextualisée. C'est pourquoi il m'importe, en terminant, de souligner avec force l'importance des savoirs disciplinaires dans une approche programme. Au lieu de privilégier une culture managériale, entrepreneuriale, l'approche programme doit se centrer, ainsi que le mentionne Christiane Goyer, sur l'acquisition des outils intellectuels nécessaires à l'exercice de la pensée, autant que celle des savoirs disciplinaires jugés essentiels et culturellement situés, favorisant le développement intégral de la personne, tant sur le plan intellectuel qu'affectif, social et physique. D'où l'importance de la transmission culturelle patrimoniale, la culture étant un préalable à l'exercice de la pensée critique, puisqu'elle consiste en l'ensemble des pratiques symboliques de base collectivement conçues dans la temporalité sociale et spatialement déterminée. Je vous remercie.